blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Dans l'épisode du jour, on risque de parler de Céline Lazorte, mais pas forcément que pour son engagement auprès de Sista, mais parce que c'est elle qui a fondé l'entreprise que dirige aujourd'hui mon invité. Cette entreprise, c'est Litchi, et j'ai le plaisir de recevoir au micro de 40 nuances de Sista, Alix Poulet, CEO de Litchi. Bonjour Alix.
Bonjour Solène.
Alors Alix, si tu es derrière ce micro aujourd'hui, c'est grâce ou à cause, tu me diras à la fin de cette expérience, d'Adrien Ledoux, le fondateur de Jobteaser, qui t'a choisi comme Sista dans son épisode 40 nuances de Next. Ça commence à remonter un peu, on a eu du mal à organiser cette interview, mais ça y est, aujourd'hui on y est, je suis ravie de t'avoir derrière ce micro. Et je te disais off micro juste avant qu'on appuie sur rec, on a instauré une nouvelle tradition dans ce 40 nuances de Sista, c'est de demander aux invités de choisir une musique qui symbolise cette aventure, leur aventure entrepreneuriale. Et toi, tu as choisi ça. C'est Le temps est bon, de Bon Entendeur. Je crois que ton équipe te l'a soufflé aussi, c'était une décision collégiale.
Tout à fait, puisque quand tu m'as demandé quelle chanson symbolisait Litchi, ce n'est pas moi. Et donc j'ai demandé à l'équipe, selon eux, ce qui incarnait le mieux Litchi. Et cette chanson est sortie déjà parce que c'est un collectif qui la chante. Et on croit beaucoup chez Litchi à la force du collectif. C'est français. Et Cocorico, Litchi est le leader de la cagnotte en ligne en Europe et c'était le premier à se lancer en France. Et puis enfin, ça exprime la joie et on éprouve cette joie-là chez Litchi de rendre tous les rêves possibles grâce, encore une fois, à la force du collectif et de faire essaimer la générosité au quotidien.
Alors, on l'a dit en introduction et tu l'as redit, c'est pas toi qui a fondé Litchi, c'est Céline Lazorte. Comment elle est venue te chercher, Céline, pour rejoindre les bancs de Litchi?
Alors, en parlant de bancs, justement, c'est sur les bancs de l'incubateur HEC qu'on s'est rencontrés avec Céline. À l'époque, elle lançait Litchi et je cofondais avec un ami d'enfance une plateforme, une marketplace de produits écologiques et sains, eCitizen. Et ben, je dirais qu'on a eu un coup de foudre amical. On a partagé les premières années de galères, bons plans, contacts, enseignements en tout genre. Et puis, quand le moment est venu pour elle de passer la main et d'amorcer une transition et un pivot chez Litchi, elle est venue me chercher, je pense, parce qu'elle savait que les valeurs qu'elle voulait faire porter à Litchi, notamment ce pivot solidaire, étaient des valeurs que j'avais ancrées en moi et que j'aurais à cœur de faire grandir.
Alors, on le rappelle, Litchi, ça a été fondé en 2009, à une époque où la cagnotte en ligne n'existait pas. Et Céline aime rappeler qu'elle passait avec sa petite enveloppe où elle s'est dit « mais il y a quelque chose à faire ». Depuis, c'est passé pas mal de choses. Et j'aurais juste revenir sur ce moment justement où Céline annonce son départ de Litchi. Elle en a parlé d'ailleurs de son départ et de la vente de Litchi au micro de Cash Out dans un autre podcast qu'on produit. Et en 2019, elle laisse sa place et elle vous écrit « Alix, Romain, je vous ai choisi et l'inverse est vrai aussi. L'amitié, l'estime et l'admiration que je vous porte est infinie. Il n'y a qu'à vous que j'aurais confié nos 150 collaborateurs. Je vous souhaite autant de bonheur que j'ai pu en avoir ces 10 dernières années. Je vous souhaite la chance d'être entourée d'une si bienveillante équipe et je vous confie le devoir de la servir et de la porter dans des aventures palpitantes. » Qu'est-ce que ça fait quand on reçoit ce type de message ?
Déjà, je suis très touchée de réentendre ces mots parce qu'effectivement, elle les avait exprimés très clairement et à plusieurs reprises. Je pense que là, elle les avait ancrés dans le marbre en quelque sorte. Mais je pense que tant à Romain qu'à moi, c'est des mots, des paroles qu'elle a eues très régulièrement. Et j'ai une gratitude infinie pour la confiance qu'elle m'a accordée. Et je pense que c'est assez à l'image de mon parcours où plusieurs personnes, des bonnes fées comme Céline, ont été sur mon parcours et m'ont accordé leur confiance. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur terrain pour s'exprimer, s'épanouir, grandir et rendre à celui qui a donné ou celle qui a donné confiance le meilleur de ce qu'il a voulu transmettre.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au moment de cette transmission pour toi ?
Je ne sais pas s'il y avait des choses compliquées en tant que telles. C'était une aventure très joyeuse. Pour moi, ça tombait tout sous le sens parce qu'encore une fois, les rencontres que j'ai pu faire et les aventures dans lesquelles je me suis investie étaient des aventures sous le sceau de l'amitié. Ça a toujours été un de mes guides et pour moi, c'était une évidence de rejoindre l'aventure que Litchi, que Céline avait façonnée, son bébé. Je dirais que j'avais à cœur d'assurer la continuité de ce qu'elle avait bâti, tout en donnant une impulsion nouvelle ou en offrant un nouveau visage, parce que c'est bien pour ça qu'elle était venue me chercher. Cet exercice-là d'équilibre entre valorisation de l'historique, des savoir-faire, des valeurs qui ont été qui ont fondé Litchi et en même temps un nouveau souffle qui soit dans la droite continuité et dans l'élan de ce qui a déjà été des graines qui ont déjà été plantées.
Et quand tu prends la tête comme ça d'une boîte qui a une image de marque assez forte, à ce moment tu la reprends, tu t'entoures aussi de nouvelles personnes. Comment tu dis il faut continuer à la faire vivre, il y a tout l'historique, la continuité et le nouveau souffle. Comment tu fais justement pour apporter ce nouveau souffle ? Parce que Litchi est portée quand même par ce visage emblématique qui est celui de Céline, en plus qui était une des premières femmes dans la tech et elle a été aussi beaucoup mise en avant avec ce sujet-là. Je pense que c'est par hasard qu'elle a aussi voulu redonner le flambeau à une femme, j'imagine, la connaissant un petit peu. Comment tu fais justement pour prendre tout ce projet à bras-le-corps ?
Alors, je me suis beaucoup appuyée sur les équipes et j'ai été très étonnée et touchée à mon arrivée par la bienveillance qu'il y avait. J'ai vraiment été accueillie, entre guillemets, à bras ouverts. J'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de collaborer, de me transmettre un maximum d'informations. Et comme tu le soulignes, c'était pas forcément pour les équipes, évident pour les équipes de laisser la place à une autre, alors que Céline a vraiment marqué de sa patte Litchi. Pour autant, j'ai senti une vraie ouverture, une envie de qu'on construise les choses ensemble. Et donc, les choses se sont faites en réalité assez naturellement. Les personnes historiques étaient là quand je suis arrivée. Certaines sont restées, sont encore là aujourd'hui. D'autres avaient fait par la suite un cycle et c'était le moment pour elles de voler de leurs propres ailes. Et donc, assez naturellement, il est venu le temps de remplacer, de renforcer les équipes. Et le nouveau souffle s'est fait, encore une fois, de manière très progressive.
Petit à petit, on apprend pâte à pâte avec des nouveaux people qui venaient sur les bancs de Litchi. Alors, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte les 13 dernières années, est-ce que tu peux très rapidement nous parler de Litchi en quelques mots ?
Oui, alors je l'évoquais, Litchi, c'est le pionnier en France et le leader de la cagnotte en ligne qui compte plus de 18 millions d'utilisateurs. Et donc depuis 12 ans, Litchi facilite la générosité en offrant un service de cagnotte en ligne qui est simple, rapide, sécurisé, pour permettre à chacune, chacun, de faire vivre ses projets, que ce soit pour offrir un cadeau à plusieurs, organiser un événement ensemble, ou soutenir une cause ou un projet qui lui tient à cœur. Et en 2022, on aura collecté pas loin de 250 millions d'euros, dont un peu plus de près de 20% orientés à des projets solidaires.
Et le business model ?
Il est simple, transparent et c'est le même depuis la création. On prélève une commission à la sortie des fonds et c'est une commission qui est dégressive en fonction du volume collecté afin d'accompagner au mieux tous les élans de générosité et quelle que soit, voilà, encore une fois, leur ampleur, leur nature et leur taille.
Alors, tu soulignais juste avant que je te pose la question sur le business model, le côté solidaire des projets. C'est, j'imagine que par rapport au début et les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est quelque chose que vous encouragez, ce type de cagnotte, par rapport à, par exemple, des plateformes qui pourraient être vraiment spécialisées sur ces sujets-là.
C'est clairement notre volonté première de pouvoir accompagner au mieux tous les élans de générosité et ceux qui portent sur le solidaire. Notre ambition, c'est de mettre la générosité à portée de toutes les mains et de faire valoir chaque contribution, aussi minime soit-elle. Elle a un impact et on a, depuis la création, et c'est Céline qui avait instauré ça avec les équipes produits, avec les équipes marketing et évidemment les équipes service client, d'être toujours à l'écoute des besoins des utilisateurs, de répondre au mieux à leurs attentes. Et Litchi a évolué vers le solidaire grâce à ses utilisateurs, parce qu'en réalité, tout le monde le sait, donc Litchi historiquement était connu pour ses cagnottes d'anniversaire, de pot de départ, d'événements de vie, mariage, naissance et autres. Et puis, dès 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on a vu naître les premières cagnottes solidaires qui ont été créées de manière très spontanée par les proches des victimes pour venir en aide à leur famille et les soutenir. Et puis, au fil des années, ces cagnottes-là ont grossi, grandi. On a eu un essor extraordinaire au moment du premier confinement lors de la crise sanitaire, où en l'espace de quelques semaines, au mois d'avril 2020, plus de 10 000 cagnottes ont été créées et 18 millions d'euros collectés pour venir en aide au personnel soignant. Et là encore, plus récemment, évidemment, avec la guerre en Ukraine, on a eu une très forte mobilisation sur la plateforme. Et donc, notre vocation et notre rôle est d'accompagner au mieux ces collectes-là. Et un enjeu fort est celui de la sécurité, d'assurer évidemment la sécurité des transactions, mais aussi la bonne destination des fonds qui ont été collectés pour garantir aux donateurs qu'ils auront réellement un impact et que la cause qu'ils soutiennent est bien celle qui verra prospérer son action.
Donc c'était Litchi qui était aussi derrière Protège ton soignant.
Tout à fait. Protège ton soignant était une initiative d'un collectif
d'entrepreneurs. Dont Céline.
Dont Céline, tout à fait, qui se sont mobilisés pour collecter de l'argent, mais surtout pour mener tout un tas d'actions, encore une fois, pour venir en aide au personnel soignant, aux hôpitaux, et de manière très pragmatique, en recueillant leurs besoins et en rédigeant, en faisant des circuits courts pour approvisionner les hôpitaux en matériel dont ils avaient le plus besoin. Et la cagnotte Protège ton soignant est parvenue à collecter plus de 7 millions d'euros. Là encore, en l'espace de quelques semaines, ça a été vraiment une mobilisation exceptionnelle et un élan remarquable, historique sur Litchi.
Sur Litchi. Alors, il y a les belles histoires sur Litchi. Je pense que vous en avez plein. Il y a des histoires un peu plus compliquées à gérer et on n'a pas très envie que sa marque soit forcément associée à ces histoires-là. Je pense notamment à cette histoire autour des gilets jaunes qui a eu un moment. Vous avez été cité, mais sans être directement montré du doigt lors d'une récente enquête autour du financement de sites de fake news où Ulule a été montré du doigt, où Tipeee aussi a été montré du doigt, notamment lors du financement du ce docu entre guillemets Hold Up. Comment on réagit en fait face à ça, donc au-delà des polémiques prises individuellement qui là ne nous intéressent pas forcément, comment on réagit, est-ce que les faits suffisent à prouver qu'on n'est pas mouillé entre guillemets dans ces affaires-là, comment vous gérez ce genre de polémique?
Alors, je crois que l'enjeu chez Litchi, depuis la création, c'est d'être un tiers de confiance et de garantir, encore une fois, la sécurité des transactions et de faire preuve d'une transparence absolue sur d'où proviennent les fonds et où vont les fonds. Et à chaque fois qu'on a eu des polémiques, et tu l'as évoqué, il y a eu effectivement la cagnotte pour le boxeur des Gilets jaunes, qui avait été suivie d'ailleurs 48 heures plus tard par une cagnotte créée pour soutenir les forces de l'ordre et qui, elle, avait collecté plus d'un million et demi d'euros. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces cagnottes-là sont le reflet des préoccupations des Français. Elles expriment des inquiétudes, des frustrations, des angoisses, des colères. Et on a un rôle chez Litchi d'accueillir cette diversité de mobilisation, tout en assurant les respects de la loi, évidemment, de notre charte et de nos conditions générales d'utilisation. Et donc, on est très attentif à exposer notre raisonnement et expliquer, encore une fois, de la manière la plus transparente possible, pourquoi telle ou telle collecte est autorisée et pourquoi telle ou telle autre ne l'est pas. Et on a très souvent le cas, par exemple, dans les cas donc des affaires judiciaires, où il est autorisé de collecter des fonds pour assurer sa défense. Et donc, nous accueillons et nous hébergeons des cagnottes de ce type-là sur Litchi. Pour autant, il est interdit de collecter de l'argent pour financer une amende, des dommages et intérêts. Et donc, souvent, la ligne est ténue. On a eu des cas sur la PMA, la GDA, sur le soutien d'une école de tauromachie. J'en cite parce que, encore une fois, la diversité est assez rare. Où c'est à chaque fois un cas d'école, je dirais, chez nous, qui vient agiter nos neurones, où on se pose en équipe la question de qu'est-ce qu'on doit permettre, jusqu'où va-t-on, comment est-ce qu'on héberge et on accueille et on encadre toutes ces collectes pour leur permettre un plein essor et en préservant des dérives, des malversations, des détournements qui pourraient être faits. Et donc, on n'a pas de réponse toute faite. Je dirais qu'à chaque fois, on se repose la question.
Vous avez une alerte, en fait, sur... parce que j'imagine que, vu le nombre de cagnottes créées, vous pouvez pas passer derrière chacune pour regarder si c'est bien l'anniversaire de gens qu'on va fêter. Vous avez des outils qui permettent de dire attention, warning sur celle-ci?
Ouais, bien entendu, on a plein d'outils. Ouais. On a des outils de scoring, de screening, des choses qui ont été donc faites maison, d'autres outils que sur le marché qui nous permettent d'exploiter au mieux toutes les datas dont on bénéficie. Mmh. Et toutes les cagnottes passent par la moulinette de ces outils et nous permettent d'attribuer un score tricolore vert, jaune, rouge à chaque cagnotte. Et ensuite, c'est des vérifications humaines qui sont appliquées. Et donc, on a une équipe en charge de la fraude et de la conformité qui va... regarder plus en détail l'objet de la cagnotte, la destination des fonds, et au besoin, s'il y a encore une suspicion ou un doute, demander au créateur de la cagnotte des éléments, des compléments d'information, des documents justificatifs pour, encore une fois, garantir la bonne destination des fonds. Donc, c'est un travail qui est de tous les jours. C'est une régularité d'aller éplucher quand même au peigne fin ces cagnottes-là grâce aux outils qui, encore une fois, nous permettent d'orienter nos efforts dans la bonne direction.
Oui.
Mais c'est vraiment un enjeu clé chez nous et on investit beaucoup sur...
Puis c'est une manière de continuer de valoriser la marque, en fait, aussi.
Tout à fait.
Parce que, comme je le disais tout à l'heure, t'as pas forcément envie que ta marque soit associée à des choses que tu ne cautionnes pas, voire hors la loi, c'est encore pire. Donc, il faut quand même avoir ce regard. J'imagine que les choses... Est-ce que les choses, justement, je dis j'imagine, mais je vais pas faire de supposition, je vais te poser la question. Litchi a été revendu donc, en 2015, ça a été racheté par Crédit Mutuel Arkéa. On viendra après sur la deuxième phase qui a eu lieu il y a pas très longtemps, au printemps 2022. Mais est-ce que déjà le fait d'être racheté à un moment par une banque, ça renforce justement tout ce côté sécurité, fraude? Est-ce que vous êtes passé à un niveau au-dessus déjà à ce moment-là?
Oui, clairement, le Crédit Mutuel Arkéa nous a énormément aidés sur tous les sujets conformité pour mettre en place des procédures et pour grandir sur ces sujets-là et former nos équipes. Ce qui a été très riche dans la relation avec CMA, et donc moi j'ai rejoint l'aventure en 2017, il y avait déjà donc la banque en tant qu'actionnaire, c'est que c'est un groupe mutualiste, et il y avait beaucoup de valeurs partagées entre Litchi et Crédit Mutuel Arkéa, et il y y avait un vrai élan qui était donné par le directeur général de l'époque, Ronan Lemoille, qui était un vrai promoteur de la fintech et des startups en général, et qui avait une très bonne connaissance des enjeux à la fois de Litchi et de Mangopay, puisqu'on est donc deux sociétés dans la même coquille, Mangopay étant notre prestataire de paiement. Et donc c'était une relation qui était très riche, très nourrie, parce qu'il y avait une confiance mutuelle et je pense aussi des apprentissages mutuels.
D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, quand tu es arrivée en 2017, tu es arrivée à quel poste ?
En tant que directrice des opérations.
Ok. Et tu avais une vue d'ensemble sur la boîte, en fait.
Oui, alors je pense que la feuille de route était très claire dès le départ. Mmh. Quand Céline est venue me chercher, elle m'avait clairement indiqué que c'était pour prendre... la suite, ça la relève et que à l'époque ça avait du sens qu'il y ait une direction générale distincte pour les deux entités, Litchi et Mangopay. Jusque là, c'était une direction générale commune qu'elle assurait elle auparavant. Mais donc c'était effectivement une super porte d'entrée d'être aux opérations et d'être vraiment de manière opérationnelle auprès des équipes. Voilà.
Donc je le disais, 2015, revente de Litchi, et comme je le disais, Céline en a super bien parlé dans Cash Out, en musique avec NTM et aussi Queen. Donc je vous encourage à écouter ce podcast. Et printemps 2022, Crédit Mutuel revend une grosse partie de son capital, les chiffres ne sont pas publics, à un fonds d'investissement américain, Advent. Nouveaux enjeux pour vous, nouveaux actionnaires. Comment ça se passe? Déjà tout le processus de vente.
Oui, alors peut-être déjà, c'est une chance incroyable. Je trouve qu'on est un fonds d'investissement qui nous donne les moyens de nos ambitions et qui viennent souscrire à une vision solidaire. Je vois ça comme un signal extrêmement positif qu'un fonds qui n'est pas labellisé fonds impact parie sur le solidaire. Et comment s'est fait la vente alors, de manière assez inédite, dans la mesure où, comme je l'évoquais, il y a deux entités au sein de Litchi, la cagnotte en ligne Litchi et puis Mangopay, qui est un prestataire de paiement spécialisé sur les marketplaces et les sites de crowdfunding. Et forcément, on n'a pas du tout les mêmes activités. L'une est B2C, l'autre B2B. On n'a donc pas le même profil de client, pas les mêmes trajectoires, pas les mêmes besoins, pas les mêmes exigences en matière tech.
Mais c'est la même famille.
Mais c'est la même famille, c'est le même groupe. Et donc, de ce fait, on n'attirait pas les mêmes profils d'investisseurs. Le dossier a été monté sous l'angle de Mangopay. Mais donc, c'était les deux à prendre ensemble.
C'était à prendre ou à laisser, les deux.
Exactement, exactement. Et donc, comme je le dis, la grande chance qu'on ait eue, c'est que Advent est une vraie feuille de route pour nous et une vraie ambition pour nous et envie de nous accompagner et de faire grandir encore une fois notre vision. Et donc aujourd'hui, on a ces deux trajectoires distinctes et les deux sociétés avancent en parallèle, l'une à côté de l'autre.
Mais toujours avec les mêmes actionnaires.
Mais toujours avec les mêmes actionnaires.
Comment on gère en interne ces annonces?
Bonne question. Encore une fois, j'ai le sentiment que les choses se sont faites de manière assez fluide. Ça a été assez rapide. Les équipes étaient au courant, tout en respectant les devoirs de confidentialité, mais donc étaient évidemment les premières au courant. Je pense que le fait d'être embarqué dans les différentes étapes et dans l'aventure déjà rassure et permet de se projeter. Et puis, dans la mesure où il y avait une vraie continuité de la part d'Advent à souscrire à ce qui avait déjà commencé à être ébauché du temps de Crédit Mutuel Arkéa, ça a donné beaucoup de confiance et d'espoir aux équipes qu'on ait encore une fois désormais plus de moyens pour atteindre ces ambitions.
C'était rassurant pour les équipes de voir que ça allait être dans une continuité et pas tout changer. Alors justement, tu parles de moyens et d'ambition. Au tout début, donc quand je reviens en arrière, on pensait cagnotte, on pensait forcément Litchi. Aujourd'hui, y a Lydia aussi qui devient réflexe. Et quand la Gen Z dit « tu me fais un Lydia », enfin, en tout cas moi je l'entends dans les bureaux entre les collaborateurs. Et aujourd'hui, Lydia fait aussi de la cagnotte. Comment vous positionnez par rapport à tout ça? Il n'y a pas que, hein.
Non, bien sûr, effectivement, mais je pense que ce que Lydia a très très bien réussi, et réussi très bien, c'est de créer tout un écosystème autour du paiement, et c'est pas du tout le terrain sur lequel Litchi joue. Ce qu'on a constaté, c'est que donc l'argent est un moyen, mais c'est pas la fin en soi, et il y a une véritable émotion qui se crée autour des cagnottes qui sont portées sur la plateforme, que ce soit une cagnotte pour un anniversaire, pour célébrer un proche, ou pour saluer un collègue qui part à la retraite, ou que ce soit une cagnotte pour soutenir un projet, une cause solidaire. Il y a beaucoup d'émotions, et c'est ces émotions-là qu'on veut faire grandir, et c'est la conversation et l'écosystème qu'on veut créer autour de ça pour permettre encore une fois à tous les rêves de devenir possibles grâce à la force du collectif. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a trois facteurs clés au don. On l'a vu déjà en observant nos utilisateurs, mais aussi grâce à un observatoire qu'on mène tous les ans depuis 5 ans avec l'Institut Odoxa, un observatoire sur les générosités régionales et nationales. Et il y a 3 leviers forts chez Litchi comme moteur du don. C'est l'instantanéité, le fait d'avoir un outil qui permet de manière immédiate et extrêmement simple et accessible à tous de faire sa contribution, encore une fois, quelle qu'en soit la taille. C'est l'émotion que j'évoquais, le fait que souvent le porteur du projet va décrire son action, son rêve, son projet, et embarquer sa communauté autour de lui. Et le dernier point, c'est la transparence. C'est de voir que sa contribution en tant que donateur va réellement avoir un impact, d'avoir un suivi, d'avoir des actualités, de savoir qu'effectivement, il y a une suite qui est donnée. Et là où les autres acteurs sur le marché se positionnent et plus, il me semble, sur la facilitation de cette collecte d'argent, sur les moyens de paiement et sur des fonctionnalités d'ailleurs assez poussées qui rendent ce geste très facile. Il y a moins d'efforts qui sont consentis à toute l'expérience qu'il y a autour de cette collecte et le fait de voir concrètement ce à quoi son argent a servi.
Ce que tu dis, c'est que autour de Litchi, vous avez la notion de story autour de la cagnotte et d'embarquer finalement dans une histoire du pourquoi je fais une cagnotte au-delà de juste j'organise mon anniversaire, c'est temps par personne.
C'est ça, je l'aurais pas mieux dit. Merci Solène.
On en a un peu débattu tout à l'heure avec l'équipe justement sur les usages des uns et des autres et je me demandais s'il y avait aussi une audience entre guillemets particulière en fait. Est-ce que vous toucher vraiment toutes les générations, y compris cette Gen Z, ou est-ce que vous avez un peu plus de mal sur cette génération-là et que c'est plus des gens qui ont 30, 40 ans qui utilisent plus facilement Litchi? Est-ce qu'il y a des disparités aussi, Paris, province? Voilà, c'est des questions qu'on se posait.
Alors, il y a une grande diversité là aussi dans nos utilisateurs. Nos utilisateurs historiques, c'est donc les 25-30 ans qui ont grandi avec Litchi, qui effectivement ont la quarantaine aujourd'hui. Pour autant, le spectre est très large, parce qu'on a des tout jeunes comme des plus seniors. Ce qui est intéressant de voir, c'est simplement les usages ne sont pas les mêmes selon la génération. Et on le voit chez les plus jeunes, c'est l'engagement solidaire qui prime. Oui. Il y a vraiment une quête de sens qui est très forte chez cette génération-là. Et puis, une mobilisation qui se fait de manière très spontanée, qui vient des tripes. Et donc, c'est plutôt la variation des usages en fonction des générations qu'on constate.
Et tu parlais tout à l'heure aussi d'une étude sur la générosité que vous faites depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a des choses depuis Covid et puis plus récemment tous les événements géopolitiques qui changent en fait cette notion de générosité?
Oui, là, la dernière étude qui a été menée en septembre révèle que dans un contexte qui est anxiogène avec la guerre en Ukraine, l'inflation, les catastrophes climatiques qu'il y a eu cet été, les Français ont eu tendance à donner un peu moins cette dernière année, par peur, frilosité. Mais pour autant, les Français continuent à se mobiliser et à se montrer solidaires quand ils sont touchés par une cause. Mmh. Et généralement, ce qui les touche, c'est ce qui est proche d'eux. Et donc là encore, on en revient à ce vecteur-là d'émotion, de proximité, de connaître précisément la cause que l'on va soutenir et d'avoir le sentiment d'avoir réellement un impact. Et donc, on voit ces évolutions-là et on voit que les jeunes générations sont celles pour lesquelles le don progresse le plus fortement d'année en année, alors qu'elles ont généralement...
Moins
donc
de moyens.
Voilà, les moins de moyens.
Et généralement sur des sujets peut-être plus à impact aussi.
Tout à fait.
Alors, on l'a dit, Alix, tu es CEO de Litchi, mais tu es fondamentalement aussi une entrepreneure et C'est aussi pour cette raison que Céline t'a choisi. Je te propose une petite question surprise.
Vous avez un message.
Salut Alix, écoute, je suis ravi de pouvoir te poser cette question maintenant. J'espère qu'elle ne sera pas compliquée pour toi à répondre. La question que j'avais, c'est que tu es passé d'un projet entrepreneurial que tu as lancé toi, qui est eCitizen, qui était un projet qui évidemment te tenait beaucoup à cœur. Et là, tu as rejoint Litchi, qui est une entreprise qui a été fondée, je crois, par Céline Azort. Mm-hmm. C'est différent, donc j'avais cette question. Comment tu as géré cette transition de passer d'un projet qui est le tien, qui est ta création, à un projet qui a été créé par quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a été facile? Comment tu l'as géré pour te l'approprier?
Je pense qu'Adrien a employé le mot qui guide mes actions, c'est le cœur. C'est que tant Litchi que eCitizen sont des projets qui me tiennent à cœur. Et peu m'importe en réalité le fait que j'en ai la paternité ou plutôt la maternité, je défends la vision, les idées avec autant d'ardeur et de passion. Et on en parlait juste avant, je pense que j'avais vraiment à cœur de respecter le travail de Céline et de le faire grandir encore. Et je dirais que c'est, en résumé, c'est juste que ça met plus la pression quand c'est pas sa propre société.
Un peu dans la même veine, j'ai une question de Valérie Spies, la directrice commerciale de Neuflis OBC, notre partenaire.
Vous avez un message.
Bonjour Alix, vous êtes la dirigeante de Litchi, vous avez aussi un parcours d'entrepreneur et vous êtes passionnée de l'entrepreneuriat social. Est-ce que Litchi aujourd'hui vous permet de continuer à cultiver cette dimension d'entrepreneuriat social et de quelle façon?
C'est une très bonne question. L'entrepreneur social sert l'intérêt collectif et dans l'ADN de Litchi, il y a vraiment cette croyance que le collectif permet des choses merveilleuses. Les entrepreneurs sociaux sont soucieux d'avoir un impact, soit social ou environnemental, et mettent leurs bénéfices, réinvestissent tous leurs bénéfices au service de cette mission. Et je pense que ce point-là est important aussi parce qu'on l'évoque pas souvent dans le cadre de l'entrepreneuriat social, c'est cette autonomie financière. Aujourd'hui, Litchi est proche de la rentabilité et donc je vois ça comme un cap très excitant de pouvoir faire grandir encore une fois tous ces rêves et ces projets qui sont portés par nos utilisateurs et auxquels on essaye de donner, enfin on contribue en tout cas à donner vie en réinvestissant demain nos bénéfices pour avoir encore plus d'impact et toucher encore plus de bénéficiaires.
Donc Valérie en parlait, Adrien en parlait. Pas ta première expérience, mais avant Litchi, tu as eu cette expérience entrepreneuriale eCitizen. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Alors, peut-être pour rebondir sur l'entrepreneuriat social, parce que je ne me qualifie pas ni dans l'aventure eCitizen, ni dans l'aventure Litchi d'entrepreneur social, mais il est vrai que je suis
parce
passionnée.
Parce qu'on en parlait moins aussi peut-être quand tu as créé eCitizen d'entrepreneuriat social.
En l'occurrence, moi, je suis passionnée par ce sujet depuis bien avant
qu'on
la création d'entreprise. puisqu'en 2005, donc pendant mes études à HEC, j'ai fait une année sabbatique pour partir en tour du monde à la rencontre d'une centaine d'entrepreneurs sociaux.
Et ce qui était très précurseur.
Il y avait encore effectivement peu d'initiatives. Alors, il y avait déjà des voyageurs fous qui étaient partis rencontrer des entrepreneurs sociaux ou assimilés parce qu'effectivement, la notion n'était pas encore marketée de cette manière-là. Et j'avais été notamment beaucoup inspirée par un certain Mathieu Leroux qui a écrit un livre « 80 hommes pour changer le monde ». Et grâce à l'aide de deux fondations, l'une qui est connue aujourd'hui, la fondation donc Ashoka, l'association Ashoka, et puis la fondation Schwab, on a identifié avec donc la personne avec qui j'étais partie, qui est aujourd'hui mon mari, une centaine d'entrepreneurs sociaux dans différents pays. Et l'idée était d'aller à leur rencontre, à leur écoute, pour pouvoir tout simplement se faire le témoin de leur initiative et la partager ensuite au plus grand nombre à notre retour en France. Et ça, ça a été une vraie révélation de découvrir que il n'y avait pas de modèle préétabli. On a rencontré des gens donc jeunes, vieux. Le plus jeune avait été mineur, le plus âgé 88 ans. Il est mort quelques semaines après notre rencontre, des femmes, des hommes, des personnes qui étaient des industriels reconvertis, je dirais, d'autres qui avaient grandi dans des favelas, mais qui tous avaient ce moteur-là d'avoir, de changer la société, d'avoir un impact au niveau social ou environnemental et d'y mettre toute leur énergie et de rassembler tous leurs talents pour voilà, changer la donne. Et donc, ce qui m'a séduite dans l'aventure istisaine et la raison pour laquelle j'ai été embarquée, c'est que donc à l'époque, un ami d'enfance, Thomas Lang, avait donc mis l'idée qui fusait, et notamment cette idée-là d'istisaine. Il est venu me chercher en me disant voilà, j'ai envie de monter ça, mais je me sens pas de le faire tout seul et j'ai besoin de toi. Et en réalité, donc le projet a beaucoup changé. Je pourrais en parler après, mais c'était pas tant l'objet de istisaine qui m'intéressait, mais que cette quête de sens, cette envie d'avoir un impact positif, de créer quelque chose de vertueux qui m'a séduite et qui m'a fait signer et dire banco, je me lance dans l'aventure. Et de fait, on a commencé par un premier modèle qui était une plateforme, une sorte de YouTube Green, qui avait vocation à partager des contenus sur des thématiques sociales et environnementales. Et puis, on est devenu assez rapidement une marketplace de produits écologiques et sains, donc qui rassemblait ce qui se faisait de mieux auprès de centaines de fournisseurs pour équiper sa maison de manière, encore une fois, saine et économe.
Et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience entrepreneuriale ?
Que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de s'écorcher les genoux, de se relever, de réessayer. Je crois que je ne sais pas tellement faire autrement. J'essaie d'écouter, j'écoute et j'adore m'inspirer de théories, d'exemples. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel que d'expérimenter les choses par soi-même, avec son équipe. Et la leçon est d'autant plus ancrée, parfois qu'on l'a vécu de manière un peu douloureuse.
Si demain, un de tes enfants te disait « Maman, j'ai envie de monter ma boîte », tu lui dirais quoi ?
Je lui dirais fonce, c'est les montagnes russes, on s'ennuie jamais. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Et que ça demande d'avoir le cœur bien accroché, de savoir bien s'entourer, mais que c'est une aventure formidable.
Alix, tu parlais d'émotion, d'histoire. L'histoire, l'émotion, c'est aussi ce qui fait vivre une marque, au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Litchi, vous racontez ces histoires ? Est-ce que vous faites le porte-voix de ces belles histoires qu'on peut retrouver dans les cagnottes ?
C'est toute notre vocation, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on le fait, mais encore, probablement trop timidement, mais parce que je dirais qu'on est un petit peu en réserve, en attente du lancement du nouveau site qu'on est en train de construire et des applications mobiles qui sortiront au printemps prochain.
Les applications, c'est aussi une manière de créer ce sentiment de facilité d'accès à la cagnotte.
Oui, le mobile, c'est vraiment pour offrir une expérience enrichie de ce qu'on a actuellement sur le web. C'est pour rendre l'expérience encore plus simple, rapide, sécurisée, plus fluide et faire en sorte effectivement que le don soit à portée de main.
Il y a plein de premières fois dans la vie d'un entrepreneur, d'un CEO, d'un dirigeant. Ton premier coup de culot ?
Alors, pendant mes études, il fallait faire un stage et il y avait toute une liste de critères très précis. C'était un stage pendant la majeure entrepreneur à HEC et la majeure avait fixé un salaire minimum qu'on devait avoir, des missions précises qu'on devait avoir et j'avais envoyé cette wishlist à un contact au Canada parce que je voulais être à l'étranger en lui demandant de me répondre sous 3 semaines. Et il avait eu la grande bonté de m'accepter et m'avait avoué après coup qu'il s'était dit que soit j'étais une personne exécrable, soit il y avait peut-être un talent caché à aller chercher. Et il avait fait le pari de tenter l'aventure. Et donc je lui en suis infiniment reconnaissante. Et ça a été un très très beau stage et surtout un super mentor. C'était à Toronto chez Hachette. Ouais. Et c'est surtout que ça a été un mentor exceptionnel qui m'a beaucoup fait grandir en l'espace de seulement 3 mois.
Et exécrable parce que tu lui avais mis toutes ces conditions ?
Oui, puis que probablement la façon de le présenter était un petit peu...
un peu brut de décoffrage. ta première big mistake ?
Alors, je pense, dans le cadre de eCitizen, donc le tout premier projet, c'était une plateforme de vidéo streaming avec des contenus engagés. Et on avait avancé pendant près d'un an sur le business plan, sur on avait noué des contacts avec des fournisseurs de contenu, avec des entreprises engagées, parce que le modèle de rémunération était donc de la publicité en pré-roll, donc des entreprises qui étaient prêtes à faire partie de l'aventure. Et pour se rendre compte, au moment où il fallait vraiment lancer les choses, que les tarifs sur lesquels on avait basé tout notre business plan et qui étaient affichés partout, les tarifs de la pub sur Internet, étaient en réalité des tarifs négociés à moins 70 ou moins 80%. Mais ça, il nous a fallu un entretien avec une agence pour le comprendre, et d'un coup, notre business plan ne ressemblait plus à rien, ne tenait plus la route. Et là, c'est raide. Quand ça fait un an qu'on phosphore, qu'on travaille, qu'on fait des pitchs à droite à gauche, qu'on arrive à convaincre des investisseurs, des partenaires, des éditeurs de contenu, et que du jour au lendemain, les choses ne tiennent plus la route, eh bien, on ne se sent pas très malin.
Oui, mais ça vous fait quand même gagner du temps.
Alors, c'est certain.
Un petit peu.
C'est certain. En tout cas, l'enseignement principal que j'en ai tiré, c'est qu'il faut très vite se confronter au réel et tester les choses, même à toute petite échelle. Qu'il ne sert pas à grand-chose de phosphorer loin sur, sur d'autres planètes, de tout de suite, encore une fois, mettre les mains dans la machine.
Ouais, parce que l'idéal d'Excel n'est pas forcément la réalité.
C'est ça.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Tu rêvais de faire quel métier quand tu étais petite ?
En réalité, je rêvais pas d'un métier en particulier. Et je crois que, enfant, j'avais pas conscience de la notion d'entrepreneur. Mais en réalité, c'est probablement ce dont j'ai toujours rêvé. Je rêvais d'avoir 1000 vies. J'ai un oncle qui m'a beaucoup inspirée, qui a eu un parcours étonnant et a eu 1000 métiers. Il a commencé son service militaire chez les chasseurs alpins. Il a été vice-champion de France de moto, il a été guide de haute montagne au Népal, alors que rien ne le prédestinait à faire ça. Et je crois que ça a toujours été une inspiration de me dire on peut en une seule vie collecter autant d'expériences. Et l'entrepreneuriat permet ça en offrant une multitude d'expériences au quotidien, en étant confronté à ses équipes, ses partenaires et des personnes d'horizons très différents. Et donc, je me sens assez à ma place aujourd'hui par rapport à mes rêves d'enfant.
Et ce côté entrepreneur, tu l'as intellectualisé quand ?
Je suis juste tombée dans le grand bain quand mon ami Thomas Lang m'a proposé de le rejoindre et de lancer notre première société ensemble. J'avais été au contact des entrepreneurs sociaux auparavant et donc j'avais déjà, mais sous un angle, parce que la plupart des structures n'étaient pas forcément des entreprises en tant que telles, mais confrontée à ce modèle-là d'initiative, de prise d'initiative. Mais encore avant ça, ma mère m'avait particulièrement bluffée quand, à l'âge de 54 ans, après une carrière de juriste, avocate puis juriste, a décidé de reprendre une société de formation en langue qu'elle a donc fait grandir pendant 7 ans. Et je crois que c'est ça qui me fascine, c'est que l'entrepreneuriat est à la portée de tous, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le contexte économique ou culturel. Il y a tout à faire pour qui veut bien se retrousser les manches.
Finalement, il y a peut-être cette petite flamme que tu n'as peut-être pas eue petite dans l'entrepreneuriat et qui était là quand même, vu que ta maman s'est aussi lancée.
Oui, tout à fait.
Si je te dis héritage, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Principalement les valeurs que m'ont transmises mes parents. Ils nous ont toujours martelé le fait qu'on pourrait faire, à mes frères et moi, ce qu'on voulait dans la vie, pour peu qu'on s'y investisse pleinement. Et donc le champ des possibles était vraiment complètement ouvert. Et j'en éprouve aujourd'hui une très grande gratitude de nous avoir offert cette liberté-là et de l'avoir simplement assortie de l'exigence de faire les choses de son mieux.
Et c'est aussi ce que tu transmets à tes propres enfants ?
J'espère. J'espère, et puis en tout cas en leur montrant l'exemple de persévérer, d'être résiliente, de retenter, d'admettre qu'on peut avoir des échecs, mais que si on fait les choses avec passion et cœur, il y a toujours de belles choses qui en découvriront.
Et si je te dis dans cette continuité, maternité ?
Alors la maternité, c'est une expérience que je vis depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et je dirais que la révélation est venue progressivement. Chaque enfant, j'en ai 3, m'a fait grandir en tant que mère et m'a fait les aimer plus individuellement. Et aujourd'hui, la maternité est quelque chose qui m'offre un ancrage, une respiration et beaucoup de joie et d'équilibre dans mon quotidien d'entrepreneur ou en tout cas de dirigeante.
C'est souvent d'ailleurs une question que se posent des jeunes entrepreneurs, se dire comment je fais pour gérer une maternité et ma boîte. Souvent je dis, de toute façon, il n'y a pas de bon timing. Il y aura toujours quelque chose. Il n'y a pas de bon timing. Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais justement à cette crainte de dire comment je fais ou comment tu fais ?
Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de bon timing. En réalité, c'est des projets qui sont tous très prenants et qui mobilisent beaucoup d'énergie. J'ai eu mon 2e enfant alors que j'avais rejoint peu de temps auparavant l'aventure Litchi. Et puis la 3e, là au moment où se faisait la vente de Crédit Mutuel Arkéa à Advent. Donc des périodes dans les deux cas qui étaient très intenses. Lors de ma première... La première grossesse Litchi, c'était en plein dans l'affaire d'Ettinger, dont on a parlé, la cagnotte du boxeur, avec une exposition médiatique qui était extrêmement forte. Et donc, j'étais présente, évidemment, aux côtés des équipes, mais probablement que cette période-là, très particulière de ma vie, m'a donné un certain recul qui m'a permis d'absorber les choses avec un petit peu plus de facilité, ou en tout cas de prendre un peu de recul, un peu différemment. Et donc, je pense que les deux expériences s'enrichissent mutuellement. C'est fatigant, ça, je dirais pas le contraire, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces expériences-là qui se croisent.
Si je te dis sororité.
Alors, c'est un mot qui m'est très cher et qui est grâce à lui que j'ai rejoint Litchi, parce que Céline a toujours été une vraie défenseuse de la place des femmes et de la sororité. Et moi-même, j'ai donc grandi dans un environnement plutôt masculin avec 2 frères. Mais aujourd'hui, je dirais que toutes les personnes qui m'inspire, ce sont les femmes qui m'entourent. Mes amies, les entrepreneuses que je suis, je l'ai évoqué, ma mère.
Comme qui, les entrepreneuses que tu suis ?
Alors, des entrepreneuses qui sont aussi pour la plupart des amies. La liste est longue, donc je voudrais pas...
pas faire de jalouse.
Je voudrais pas faire de jalouse, mais il y a évidemment Céline Lazorte en tout premier lieu. Une autre Céline que j'affectionne énormément, Céline Orjubin, fondatrice de My Little Paris. Tatiana Jama, de Sélectionniste, et puis du fonds Sista, plus récemment. Isabelle Rabier, la fondatrice de Jolie Moi. Donc, la liste est longue, mais je suis admirative de ces femmes entrepreneurs, mais aussi de mes amies qui ont toutes, je trouve, une force incroyable à concilier, pour certaines, pas toutes, mais maternité et des carrières exigeantes, et à le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de générosité. Et je pense qu'il est clé qu'on se soutienne entre femmes et qu'on s'apporte des éclairages mutuels, parce que si on ne le fait pas, personne d'autre le fera pour nous. Et donc j'essaye autant que possible de mettre en lumière celles que j'admire, et je suis infiniment reconnaissante de celles qui m'ont tendu la main et m'ont fait confiance.
Tu parlais tout à l'heure, au tout début de ce podcast, des bonnes fées. C'est d'elles aussi dont tu parles ?
Oui, tout à fait.
J'allais te dire, qui sont ces bonnes fées ? Du coup, je pense que tu as répondu.
C'est ça.
Parce que c'est notre projet !
Si tu étais présidente de la République, ce serait quoi ton projet ?
Déjà, quelle angoisse, je voudrais pas du tout être présidente, mais...
Je crois qu'une fois sur deux, voire même plus, on nous dit ça.
J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui, de colère qui vient du fait que les gens ne se sentent pas écoutés. Et donc, je pense que pour réconcilier les Français, il est nécessaire d'être à l'écoute et de valoriser toutes les initiatives qui sont déjà prises aujourd'hui. Il y a un tissu associatif qui est extrêmement riche en France, et sans toutes ces associations, la France ne irait très mal. Et je pense qu'il y a une vraie déconnexion entre le pouvoir et la mobilisation, le collectif, les individus qui ont des initiatives, des élans, qui les portent, mais qui n'ont pas toujours l'ampleur, l'écho ou l'écoute qu'ils souhaiteraient. Donc, je serais déjà très attachée à réinstaurer une collaboration plus forte, une écoute pour que tous ces projets-là essaiment, parce qu'ils existent et ils ne demandent que à ce qu'on leur donne le porte-voix. Et je pense qu'on est très nombreux à être préoccupés par ça. Je pense que l'éducation est clé. Les innovations de demain seront portées par nos enfants. Et j'imagine la frustration, peut-être la déception de nombreux enseignants dont le travail n'est pas forcément valorisé aujourd'hui, alors que leur contribution est inestimable. Et je pense qu'il faudrait investir en priorité dans l'éducation pour faire grandir des citoyens qui seront soucieux des autres, soucieux de la planète, et qui pourront encore une fois faire essaimer la générosité.
Je vais rebondir sur ces deux sujets. Ces deux sujets. Le premier, c'est sur l'éducation. En effet, c'est Nathalie Ballack à ce micro qui. Alors, c'était pas sur moi président, c'était sur sa carte blanche, je crois, qu'elle défendait l'éducation. J'ai l'impression que c'est souvent aussi des sujets qui sont portés par des femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ?
J'ai pas fait d'études, je saurais pas dire. Mais cette préoccupation de l'éducation, je peux que constater autour de moi, mes amis, donc parents, qu'il y a quand même un investissement aujourd'hui très fort de la part des papas, qu'il n'y avait pas forcément à la génération du dessus. J'ai beaucoup de mes amis hommes qui sont très investis et très préoccupés par le devenir de leurs enfants, et donc je vois ça comme un signal positif. Maintenant, comment est-ce que collectivement on peut traduire ça et faire en sorte que notre gouvernement investisse les moyens qu'il faut ? Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Mais tant mieux si les femmes peuvent être fer de lance sur le sujet, comme sur beaucoup d'autres, parce qu'on sait
faire bouger les lignes.
Voilà, exactement.
Et mon autre sujet, c'était sur la première partie de ta réponse, où tu parlais de la diversité des projets, et ça rejoignait aussi un petit peu ce que tu disais sur Litchi, quand je te parlais des polémiques, et où tu me disais, en fait, c'est assez révélateur finalement de la société, et ce qu'on peut voir dans les cagnottes, c'est aussi les colères ou les faits joyeux des gens. Est-ce que ça peut être une mission que peut se donner Litchi, d'être le porte-voix aussi d'une certaine manière de ce que vous voyez d'un point de vue plus micro au niveau des cagnottes, pour remonter des choses et finalement avoir un impact sur la société qui dépasse simplement le fait de promouvoir la générosité et promouvoir votre produit en tant que tel? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez porter?
Oui, je crois très fortement à ça. Et effectivement, je pense que les cagnottes sont employées aujourd'hui un peu comme une pétition, un manifeste. On l'a vu à plusieurs reprises, et notamment, j'ai en tête une illustration. C'est une cagnotte qui avait été créée, je crois, fin 2018, début 2019, pour l'hôpital de Privas, en Ardèche. C'est une infirmière qui s'était mobilisée pour alerter les pouvoirs publics sur les déserts médicaux et l'absence d'accès aux soins pour tous. Et la cagnotte avait récolté un très très grand nombre de contributions, mais des contributions de tout petits montants. Il y avait des contributions à 1 euro et l'objet n'était pas tant de la collecte de fonds, parce qu'il n'y avait pas de projet en tant que tel à soutenir derrière, mais c'était vraiment pour alerter, faire savoir et faire porter la voix. Et donc c'est effectivement notre rôle chez Litchi d'arriver à mettre la lumière sur ces projets-là, les pousser, les faire grandir, leur donner encore plus d'essor, plus d'impact. Et encore une fois, l'argent n'est qu'un moyen, mais n'est pas la finalité. L'idée, c'est d'alerter, de faire bouger les lignes. Wow.
Je crois, Alix, que c'est le moment de nous évoquer ta plus grosse claque.
Alors, je ne sais pas si c'est la plus grosse, mais en tout cas, c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc, on est embarqué dans un projet de reconstruction du site Litchi depuis quelques temps déjà. Le projet a été initié il y a près de 3 ans. Et on avait commencé en interne avec les équipes de Mangopay, parce que tout l'objet était de séparer Litchi et Mangopay d'un point de vue technique. Sauf qu'on n'arrivait pas à y mettre l'intensité voulue. Et donc, on a confié le projet en externe à des experts. Et au bout d'1 an, ils nous ont dit la bouche en cœur qu'en fait, le projet était loin d'être abouti et qu'il fallait encore envisager 1 an de travail, ce qui n'était pas envisageable à l'époque. Donc ça, ça a été une vraie claque. On s'est encore fourvoyé, on a encore tâtonné, on a encore eu des débats d'experts jusqu'à décider, il y a quelques mois de ça, cet été, de réinternaliser et de remettre la valeur au cœur de Litchi. Et aujourd'hui, le projet prend une forme incroyable, tel qu'il ne l'avait pas toutes ces dernières années. Et on devrait lancer donc le nouveau site au printemps, fort de toutes les erreurs passées. Mais ça a été effectivement de grosses remises en question et puis la douleur de devoir patienter pour l'ensemble des équipes. Donc ça, c'était une grosse claque.
Et c'est finalement souvent un enseignement, je crois, parce que t'es pas la première à nous dire on a passé le sujet à des experts dont c'est le boulot et finalement ça patine et finalement on reprend les choses en interne et on fait et on se dit mais en fait c'était dès l'interne qu'on aurait dû faire ça dès le début.
Oui, on aurait clairement pu apprendre plus vite, mais encore une fois il y a eu plein d'enseignements sur le chemin et des enrichissements du produit qui se sont faits entre-temps.
Et puis, tu as ta roadmap et à un moment, ça ne rentre pas. Donc, tu te dis, je vais déléguer.
C'est ça.
Et après, tu te rends compte que l'ADN des équipes, en fait, est nécessaire pour ce type de projet.
Oui, tout à fait.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je vais me taire pour les prochaines minutes pour te laisser ta carte blanche. Donc, la carte blanche d'Alix Poulet.
Alors, chez Litchi, on a 3 valeurs que sont la diversité, la générosité et la responsabilité. Et la diversité est vraiment une valeur clé qui existe depuis la création de Litchi et se reflète de manière très évidente. En tout cas, moi, ça m'a marqué en arrivant chez Litchi de voir la variété des profils qu'il y avait au sein des équipes, même si on a encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur les catégories d'âge. Mais je crois fondamentalement, et je crois que toutes les équipes croient fondamentalement, que la richesse vient du débat d'idées, de la confrontation de points de vue. Et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin, de voir plus grand, plus haut. Et j'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore signataires d'un pacte qui s'appelle l'IDEA Pact, pour donc IDEA pour inclusion, diversité, égalité, accessibilité, à le signer, pour essayer de promouvoir au sein de leurs équipes ces valeurs-là et faire en sorte que les entreprises françaises soient le reflet de la diversité de la France et répondent au mieux aux attentes des consommateurs, des utilisateurs, en englobant toute cette diversité-là.
On peut retrouver ce pacte sur...
En ligne, il y a un site dédié, le Pacte ID, avec le manifeste et la charte qui est accessible à tous.
Eh bien, on mettra dans la description le lien vers ce pacte. Avant ma dernière rubrique, si je te dis charge mentale du dirigeant, ça t'inspire quoi ?
Ça m'inspire une préoccupation forte sur la santé mentale. On évoquait la plus grosse claque. Je pense qu'il y a une autre claque que je me suis prise lors du premier confinement, où il y a eu une conjonction d'événements qui ont créé de l'urgence et du stress et beaucoup de fatigue pour les équipes. Et je reprends une phrase pas forcément très élégante de Jacques Chirac qui dit « les merdes volent en escadrille ». Là, c'était clairement ce que j'ai ressenti, où... on avait, je l'évoquais, à la fois un essor incroyable d'une mobilisation pour soutenir les personnels soignants et donc des milliers de cagnottes qui étaient créées pour collecter des sommes parfois très importantes pour être versées souvent à des hôpitaux. Et au même moment, on a une faille de sécurité qui avait été dévoilée, qui était existante depuis un an, mais qui a été dévoilée à ce moment-là et qui consistait à ce que donc les adresses mail des créateurs de cagnottes soient visibles dans le cache des pages. Et nos créateurs de cagnottes ont fait l'objet de campagnes de phishing pour essayer de détourner leurs fonds. Et donc, ça a créé une intensité, un stress très important pour les équipes qui, donc en charge du service client, de la conformité pour garantir la bonne destination des fonds. Et la grande fierté, ça a été qu'il n'y ait eu aucune fraude, qu'on a réussi à tout arrêter, tout stopper et contenir, mais au prix d'efforts considérables. Et ce qui, moi, m'a incroyablement porté, c'était de voir la solidarité qui s'est créée au sein des équipes. On a créé des task forces et toutes les équipes se sont mobilisées pour venir en aide, encore une fois, au service client, à la conformité, qui étaient, eux, en première ligne. Et ce qui a été dur à ce moment-là, et en ce en quoi c'était une claque, c'est que j'avais comme principale préoccupation d'essayer d'alléger le plus possible le stress qu'il y avait sur les équipes, parce qu'on était exposés médiatiquement, parce que tout le monde avait à cœur de bien faire, et tout le monde était extrêmement investi. On était en plus à distance pendant le confinement, donc ça crée, il y avait une perméabilité.
La situation même du confinement était déjà
stressante. Donc il y avait une perméabilité entre vie pro, vie perso. Et donc voilà, ce point-là sur la charge mentale me fait penser à la nécessité d'être d'observer ses équipes et d'être attentif à la santé mentale, parce que c'est un enjeu clé, à mon sens, aujourd'hui, surtout avec les jeunes générations qui s'investissent énormément, de savoir profiter de cet investissement à bon escient et préserver la santé mentale de chacun.
Et vous avez mis en place, du coup, des choses en particulier, justement, pour en warning, il peut y avoir plein de choses.
Oui, bien sûr. Alors, précisément, pendant les confinements, on avait une cellule psy qui était ouverte, disponible, anonyme pour l'ensemble des collaborateurs. Qui a été utilisée, encore une fois, de manière anonyme.
Bien sûr,
on n'avait pas de remontée là-dessus, mais qui a été utilisée. On est attentif à ce qu'il y ait un bon équilibre aussi pour la vie parentale, en offrant, donc c'est passé dans la loi, et donc on était avec plein d'autres entreprises signataires du Parental Act pour offrir un congé aux deuxièmes parents. Donc soucieux de cet équilibre-là aussi entre vie perso et vie pro. Et puis on a des tas d'outils et d'instances où on prend le pouls des équipes et on les sonde, là aussi souvent de manière anonyme, sur leur bien-être, leurs aspirations et ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation au quotidien.
On arrive vers la fin de ce podcast et je t'ai demandé si toi tu avais dû choisir une sista, une femme entrepreneur, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Est-ce que j'ai le droit de tricher d'en choisir deux ?
Allez.
Chouette. Alors, il y a une certaine Aude Gonigoubert, son nom de scène Aude Gégé, qui est une amie très chère, mais qui surtout est une comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, écrivaine de talent, qui a donc produit et écrit une série Virago sur YouTube, qui met en lumière des portraits de femmes exceptionnelle et qui est un vrai exemple de sororité et de défense du pouvoir, de la puissance des femmes. Elle est passionnée et passionnante et donc je serais super heureuse de l'entendre au micro de 40 nuances de Sista. Et c'est voilà, une vraie femme engagée que j'admire énormément. Et puis une deuxième personne que j'admire beaucoup, Isabelle Rabier, qui a fondé Joli Moi et qui pour moi est un exemple de persévérance, de résilience, qui a su innover dans un secteur qui méritait clairement d'être dépoussiéré. Elle reprend le modèle Tupperware pour vendre des cosmétiques et des produits de soins. Elle est très attentive, Joli Moi est très attentif à ce que ce soit des produits les plus clean possibles. Et le modèle qui a été mis en place de social selling responsable valorise les femmes et les empower, leur donne la capacité d'être indépendante financièrement et d'être maîtresse de leur destin. Et donc, je trouve que c'est un très beau parcours et qu'elle a réussi à faire grandir, avoir de l'impact à grande échelle. Et donc, c'est deux femmes que j'admire énormément et que je serais heureuse d'entendre par la suite.
Avant de se quitter, figure-toi que Céline a aussi été choisie comme sista. Si tu devais lui poser une question, tu lui poserais quoi ?
Alors Céline, toi qui as monté Litchi toute seule et qui l'a fait vaillamment, qu'est-ce que ça fait d'être maintenant embarquée dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec un associé ? Vous êtes en plus, je crois, à 50-50, qui est un pari fou, risqué, mais payant de toute évidence. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette aventure à deux ?
Eh bien, on lui posera avec joie. Merci beaucoup, Alix, de t'être prêté au jeu de ces questions. J'espère que du coup, c'était plutôt grâce à Adrien que à cause.
Non, je remercie beaucoup Adrien. C'est vraiment super sympa qu'il ait pensé à moi. On se connaît de longue date et ça m'a beaucoup touchée qu'il me mentionne.
Et merci de nous avoir partagé toutes tes expériences. Et je propose du coup qu'on se quitte avec ça.